Il est présenté ce soir par Céline Dupin.
Bonsoir. 20 nouveaux cas de coronavirus en France, annonce ce soir du ministre de la Santé Olivier Véran. Une hausse qui s'explique notamment par l'identification de personnes en contact avec les malades. La contestation s'amplifie sur les îles grecques où s'entassent toujours plus de migrants. Les habitants refusent la construction de nouveaux camps. Angélique Kourounis fait le point depuis la Grèce. Lubrizol mis en examen après les dégâts causés par l'incendie de son usine à Rouen. Pollution de l'eau, manquement dans ses installations, Coralie Moreau nous expliquera. Pas assez respectueux de l'environnement, le projet d'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow est rejeté par la justice britannique. De quoi donner de l'espoir aux opposants à des projets similaires jusqu'en France, on l'entendra. Roman Polanski absent de la cérémonie des Césars demain. Une nouvelle crise pour l'institution, nous en parlerons avec notre invité Jean-Michel Frodon, historien et critique de cinéma. Ils sont désormais 24 malades hospitalisés en France, contaminés par le coronavirus. Très peu reste sans explication, assure Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Le ministre Olivier Véran reconnaît, lui, une augmentation sensible, avec donc 20 nouveaux cas détectés, Grégoire Le Callot.
Et parmi ces nouveaux cas, il y a plusieurs foyers identifiés. Le premier se trouve dans l'Oise et selon le directeur général de la Santé, il est lié aux deux patients connus de ce département. L'un est un civil qui travaillait sur la base aérienne de Creil, qui est âgé de 55 ans et hospitalisé dans un état grave à Amiens. Trois des cas viennent d'ailleurs de cette base militaire. L'autre était un professeur de 60 ans décédé à Paris. Alors les recherches systématiques menées sur ce secteur ont permis la détection de ces nouveaux malades, la chaîne de contamination. L'examination se dessine, mais toujours incomplète, car les autorités n'ont pas trouvé le cas zéro, c'est-à-dire le point de départ de ces transmissions de virus, et elles ne savent toujours pas comment il est arrivé dans ce département. Second foyer en Haute-Savoie, il s'agit là de la famille et d'un ami des deux personnes, un homme et sa femme, qui sont hospitalisés à Annecy. Et enfin, deux personnes relativement âgées sont membres d'un groupe de voyageurs qui revient d'Égypte. Les autres personnes membres de ce groupe sont actuellement testées.
Olivier Véran indique que plusieurs enquêtes sont par ailleurs toujours en cours pour chercher de nouvelles infections. Face au coronavirus, c'est l'union sacrée et l'appel à la solidarité nationale entre les responsables politiques français. Ils étaient reçus ce matin par le Premier ministre. Tous ont partagé les invitations au calme et au bon sens. Quelques voix dissidentes tout de même, de Marine Le Pen à Nicolas Dupont-Aignan. Il regrette un manque d'anticipation dans la propagation de l'épidémie. Une réunion aura lieu demain au ministère du Travail avec les partenaires sociaux pour faire le point sur les mesures à prendre dans les entreprises. En déplacement en Italie, Emmanuel Macron affiche la solidarité européenne face à l'épidémie. À l'occasion du 35e sommet franco-italien, le chef de l'État est revenu sur les mesures sanitaires. Elles sont prises dans chaque pays avec une coordination européenne très étroite, assure le président français. Au niveau mondial, l'épidémie est à un point décisif selon l'OMS et les bourses sont-elles gagnées par l'anxiété? Les marchés européens ont tous fini en baisse. Les indices boursiers mondiaux se dirigent quant à eux vers leur pire semaine depuis la crise de 2008. Les manifestants anti-migrants ne désarment pas en Grèce face à l'augmentation des arrivées. Le gouvernement conservateur veut construire de nouveaux camps fermés sur les îles comme Lesbos. Au grand dam des habitants qui réclament leur transfert en Grèce continentale, plus d'un millier de personnes ont encore manifesté après de violents affrontements hier avec la police. Angélique Kourounis.
Cocktail Molotov et chevrotine d'un côté, balles plastiques et gaz lacrymogènes et irritants de l'autre, sans oublier les grenades assourdissantes et aveuglantes. Jamais les affrontements n'ont été si violents en Grèce. Les agriculteurs et pères de famille qui n'avaient plus rien à perdre sur les îles de Chios, Lesbos et Samos, qui refusent la réquisition de leurs terres, en sont venus au corps à corps avec les forces anti-émeutes qui ne s'attendaient pas à une telle résistance. L'hôtel où séjournaient les forces anti-émeutes a été pris d'assaut et les policiers qui s'y trouvaient passés à tabac. Ils ont dû se réfugier dans le camp militaire de l'île. Les habitants des îles de Samos, Chios et Lesbos s'opposent par tous les moyens à la construction des nouveaux camps fermés pour les demandeurs d'asile. Ils veulent la fermeture de ceux qui existent déjà et le départ des réfugiés immigrants sur le continent. Le gouvernement, lui, refuse, persiste et signe. Pour lui, la construction de ces nouveaux camps fermés sont incontournables pour procéder au renvoi massif qu'il s'apprête à faire à raison de 200 réfugiés immigrants renvoyés par jour. Mais pour calmer la situation, la moitié des forces anti-émeutes dépêchées sur place sont rentrées aujourd'hui à Athènes et des négociations sont prévues ce soir. En attendant, la censure fait rage. Depuis hier, aucune information en provenance des îles n'est diffusée sur les télévisions et radios nationales sans l'aval du Parti conservateur.
Angélique Kourounis depuis la Grèce. 3000 soldats vont être déployés au Sahel, envoyés par l'Union africaine pour faire face à la poussée djihadiste et contribuer à la sécurité dans la région. Un signe de solidarité envers les 5 pays sahéliens concernés, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad qui peinent à recruter des volontaires. On ne connaît pas encore la date exacte de l'arrivée de ces troupes. Sur cette toile de fond, le Mali rappelle son ambassadeur à Paris et dépêche son ministre des Affaires étrangères, chargé d'arrondir les angles après l'incident causé par le diplomate aujourd'hui. Lors d'une audition au Sénat, cet officiel a mis en cause le comportement de soldats de la Légion étrangère, membres de la force française Barkhane. La France dénonce des fausses nouvelles qui peuvent compromettre la lutte contre le djihadisme. Un immense panache noir et des retombées de suie sur des dizaines de kilomètres alentour. 5 mois après l'incendie de son usine de Rouen, Lubrizol est mise en examen pour 2 chefs. Le déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines et dans la Seine, mais aussi pour son exploitation non conforme de l'installation classée Seveso O. Coralie Moreau nous explique le sens de cette mise en examen.
Ça veut dire que le parquet a tenu compte de 2 éléments. Le premier porte sur les conséquences de l'incendie, la pollution des eaux, notamment de la darse de Seine qui a nécessité plusieurs mois de pompage. Le second sur des manquements relevés sur le site avant la catastrophe, manquements qui pourraient avoir contribué à la propagation du feu. Ils avaient fait l'objet d'un PV dressé par la Direction régionale de l'environnement et communiqué au parquet de Paris en novembre dernier. Y était pointé l'absence de détection incendie dans les zones de stockage extérieur, l'absence de plan d'action précis en cas d'incident avec le voisin Normandie Logistique et le manque de réserve d'eau sur le site. L'Adréal avait également épinglé Lubrizol pour ne pas avoir mis en place de système de rétention des eaux polluées qui s'étaient donc déversées dans le fleuve. Des éléments assez graves pour justifier aujourd'hui la mise en examen de Lubrizol France. L'entreprise se voit également dans l'obligation de bloquer une somme de 4 millions d'euros, une réserve qui doit permettre de dédommager les victimes en cas de condamnation.
Coralie Moreau. 1500 postes en moins chez Air France d'ici 2022. L'annonce vient des syndicats. La direction n'a pas encore confirmé ces chiffres car les discussions sont toujours en cours. Les coupes toucheront en majorité les personnels au sol. Incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris, la justice britannique met un coup d'arrêt à l'extension de l'aéroport londonien Heathrow, le plus fréquenté d'Europe. Un projet pas assez respectueux de l'environnement aux yeux des juges. En France, la décision est saluée par les opposants à l'extension de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Écoutez la réaction d'André Boëli, membre du collectif Non au Terminal 4.
C'est vraiment un tournant historique parce que ça montre que désormais il est nécessaire de juger en fait des projets d'infrastructure à l'aune de l'urgence climatique et en particulier les extensions d'aéroports, puisqu'on sait que l'aérien est un grave émetteur de gaz à effet de serre et qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour faire un avion zéro carbone. Ça n'existera pas ni à court ni à moyen terme. Donc la seule issue, c'est d'annuler ces extensions d'aéroports et en particulier celle de l'aéroport de Roissy qui est une véritable bombe climatique.
Vous battez justement contre l'extension de l'aéroport de Roissy et vous dites qu'il est urgent de faire la même chose ici en fait.
Exactement, il est urgent de faire la même chose ici. En France, il y a des dizaines d'extensions d'aéroports qui sont aujourd'hui prévues, un peu partout en France, Lyon, Nice, Caen, Beauvais et aussi Roissy, qui est la plus grosse infrastructure aéroportuaire qui est en prévision et qui est énorme puisque cette extension prévue est de la taille de l'aéroport d'Orly. Ce serait 40 millions de passagers supplémentaires par an. Donc c'est vraiment majeur et c'est une énorme bombe climatique.
André Boëli répondait aux questions de Véronique Rebérotte. L'intégralité de la rédaction des Cahiers du cinéma démissionne. Une décision qui fait suite à l'annonce début février de la vente du magazine emblématique de la Nouvelle Vague. Parmi les nouveaux acquéreurs organisés en collectif, 8 producteurs, ils posent un problème de conflit d'intérêts dans une revue critique qui justifie les salariés démissionnaires. La cérémonie des Césars demain se déroulera sans Roman Polanski. Le réalisateur visé par des accusations de viol, nominé 12 fois pour son film J'accuse, refuse de se prêter à ce qu'il décrit comme un lynchage public. Des associations et collectifs féministes avaient appelé à manifester contre sa venue. Un épisode de plus dans la crise que traverse l'Académie des Césars, après la démission collective il y a 2 semaines de ses 21 administrateurs. En cause, son opacité, son manque de parité et de démocratie. Une nouvelle présidente intérimaire vient par ailleurs tout juste d'être nommée. Invité de ce journal pour évoquer ce malaise au sein de l'institution des Césars, Jean-Michel Frodon, historien, critique de cinéma et professeur à Sciences Po Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Michel Frodon, est-ce qu'on peut parler d'un climat de fin de règne à la veille de cette 45e cérémonie ?
Alors la fin de règne, la fin du règne d'Alain Tersian comme patron des Césars, oui sûrement, après savoir si c'est la fin du règne du machisme, du sexisme, aussi du racisme et des problèmes de diversité et de l'ensemble des inégalités. Dans le cinéma français, ou même dans les Césars en général, c'est un peu prématuré. Là, il y avait plusieurs articles dans la presse américaine suite à la condamnation d'Harvey Weinstein pour rappeler que si lui avait été condamné, le monde d'Hollywood n'avait pas si profondément changé que ça. Et donc, il ne faut pas non plus surévaluer le pouvoir d'un événement, mais que c'est une étape d'une évolution en cours.
Et cette évolution, cette crise, est-ce qu'elle est inédite ?
Oui, elle est inédite à la fois sur les points précis sur lesquels elle porte, la transformation de la gouvernance des Césars, plus largement la remise en question d'habitudes acquises et de comportements largement établis dans le monde du cinéma, ça c'est nouveau. Il y a aussi un questionnement, une mise en doute d'un contexte plus large, ça s'est focalisé sur la question de la parité homme-femme. Il y a encore d'autres sujets, tout ça fait partie d'une remise en question de rapports de force conventionnels qui étaient rentrés dans les mœurs et qui sont en train d'être transformés.
Comment est-ce que vous interprétez l'arrivée par intérim, pour l'instant, donc d'une productrice comme Margaret Ménégoz, donc 78 ans, patronne reconnue des films du Losange, à la tête de l'Académie des Césars?
Je dirais que c'est à la fois une bonne nouvelle et ça n'a pas, je crois, un sens particulier aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer une fois que seront mis en place les nouveaux statuts. Margaret Ménégoz, comme vous l'avez dit, est une grande personnalité du cinéma français, quelqu'un qui est absolument reconnu un peu unanimement. Elle a aussi dirigé Unifrance Film, donc des organismes collectifs du cinéma. Elle représente à tout le moins une solution d'attente plus que correcte, et c'est une femme, donc on comprend bien que aujourd'hui c'est un bon signal. Margaret Ménégoz pourrait tout à fait devenir la prochaine présidente en titre et pas seulement par intérim des Césars, ce serait légitime, mais ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est quel sera le statut et les modes de fonctionnement de l'organe qu'elle présiderait.
À votre avis, y aura-t-il un avant et un après César 2020 ?
Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le savoir, puisque on compte déjà des victoires importantes, la remise en cause de la gouvernance des Césars et la prise en considération officielle est largement partagée, qu'il y a des problèmes qui concernent la présence et la manière dont sont traités ce qu'on appelle des minorités à tort, et que toute cette dimension-là, elle va se retraduire, entre autres, à l'échelle des Césars. Après, les Césars, je trouve qu'il faut dire 2 choses. 1, c'est bien, les Césars. C'est bien que ça existe, c'est utile au cinéma, c'est un moment particulier, moi je le dis d'autant plus facilement que je suis à peu près jamais d'accord avec les choix qui sont faits, mais néanmoins je me réjouis que ça existe, ça participe de la vie du cinéma en France et de l'attention de la société française envers le cinéma, ce qui à mon sens est le plus important. Par ailleurs, c'est pas la chose la plus importante au monde. Les Césars, c'est un moment un peu visible et qui attire l'attention, et il est légitime d'en avoir fait le terrain d'un affrontement, parce qu'il s'y passait des choses tout à fait anormales, qui étaient donc cette fameuse gouvernance des Césars. Après, l'ensemble des problèmes de sexisme et de racisme, entre autres, que connaît le cinéma en France, puisque c'est de ça dont on parle, ne seront pas réglés pour autant.
Jean-Michel Frodon, merci d'avoir répondu à nos questions. Le temps demain matin, couvert et pluvieux sur la moitié ouest du pays, ensoleillé dans la vallée du Rhône et le sud-ouest, les températures 3 à 9 degrés de la façade atlantique au littoral méditerranéen, moins 3 à 2 degrés sur le reste du pays.